vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Il y avait du soleil, alors je suis descendu.
Il y a du soleil, il y a des nanas, na-la-di-la-na.
Cinérama l'été.
On va s'en fourrer jusqu'à là, na-la-di-la-na-na.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
On se passe de l'actualité.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Je ne m'attarderai pas en vaine palabre, je serai bref et précis, je ferai feu à bout portant.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
Je m'en fous.
Cinérama l'été, trois séries pour vous contenter.
Jamais très original dans ces moments-là.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama en mode estival avec, comme les précédentes émissions, eh bien, trois séries. Nous avons chacun la nôtre et moi je vais vous parler du générique. Cette fois-ci, je vais vous parler de Saul Bass et comment il a révolutionné l'art du générique. Et puis toi, Guillaume, tu vas nous parler d'un film fantastique qui voyait 2024.
C'est ça, alors de pas très loin parce que le film est sorti en 2020, je vous en avais déjà parlé, mais je vais apporter un regard un peu plus neuf, voir si c'est vraiment pertinent. Non, ce film, c'est Songbird.
Oui, bah, s'il a fait une projection de 4 ans, c'est un peu feignant. Quant à toi, Manu,
Je vais vous parler de Dark Touch de Marina Devan.
Nous puiserons également un blind test de nos archives, celui consacré au film traitant de monde virtuel. Mais nous débutons ce cinérama estival avec le film fantastique français au féminin.
Cinérama.
Dites quelque chose.
Les réalisatrices françaises de films fantastiques.
Mais c'est le rêve des ménagères.
Ça doit être probablement spirituel, mais j'avoue que je n'y comprends rien du tout.
La talentueuse et rare Marina Devan a quelque peu disparu des radars, absente des écrans depuis plus de 10 ans. Et d'ailleurs, on peut remarquer que c'est un peu compliqué pour les réalisatrices, et même les réalisateurs en fin de compte, hein, qui œuvrent dans le fantastique en France, de construire vraiment une carrière autour du genre.
Alors oui, c'est dommage, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas non plus totalement absente. Elle s'est lancée dans l'écriture de romans, et j'ai lu son tout dernier là, qui vient de sortir, qui s'appelle Brûler l'empreinte.
D'accord.
C'est pas mal du tout, on sent qu'il y a une grosse part autobiographique, donc peut-être qu'elle s'y retrouve un peu plus maintenant dans la littérature que le cinéma, mais on espère qu'elle va y revenir.
Peut-être, hein, mais je sais qu'elle avait des projets qui ont été abandonnés en fin de compte. Hein. Donc scénariste et actrice pour François Ozon, en début de carrière, hein, elle passe donc au long métrage après une série de courts remarqués, bah, avec un coup de maître, l'impressionnant Dans ma peau, hein, vertigineuse plongée dans la psyché d'une trentenaire qui s'automutile. Alors sous la double influence, alors pour faire court, hein, de David Cronenberg et Louise Buñuel, hein, elle flirte avec le cinéma de genre avec son pamphlet social, viscéral, drôle et profondément dérangeant. En 2007, elle franchit un pas supplémentaire du côté du fantastique avec Ne te retourne pas, interprété par Monica Bellucci et Sophie Marceau, alors même si la dimension métaphorique prend le dessus sur le surnaturel. Avec Dark Touch, hein, coproduction tournée en langue anglaise au Pays de Galles, elle se confronte littéralement au cinéma d'épouvante fantastique sans détourner du regard et prendre de haut le genre.
Calme-toi, Nive. Allez, ça va aller. Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qu'elle faisait dans la forêt?
Henri et Maud arrivent. Ils sont pas loin. Ils disent qu'elle a peur de la maison, qu'elle a sauté par la fenêtre pour s'échapper.
Nive, tu entends? Tes parents arrivent.
Oh merde! Putain. Regarde sa bouche!
Merde! Nive! Nive! Fais chier. Elle s'est coupée la langue. On dirait une morsure. Qui t'a fait ça?
C'est sûr qui t'a fait ça?
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
Lucie, remontez immédiatement.
Elle est griffée de partout, regardez, c'est bleu. C'est le chien. Ou alors elle est tombée quelque part.
Ma chérie, c'est quoi tout ce sang? Oh non. Nive.
Nive. Dis-moi qui t'a fait ça. Quelqu'un est entré dans la maison? Pourquoi t'as sauté? Tu aurais pu te tuer, ma chérie. Bon, allez, on y va. Allez, viens.
Marina Devan réalise bah, une pure série B effrayante et anxiogène, hein, dont le sous-texte sociétal ne parasite jamais le plaisir éprouvé devant le film qui fut donc un échec cinglant en salle. Depuis, bah, comme on le disait en début, hein, de chronique, hein, qu'elle peine à monter ses projets, hein, et notamment une adaptation d'un roman de Stephen Zweig. En partant d'une histoire que n'aurait pas renié un Stephen King, la réalisatrice, également scénariste, commence par une scène choc, immersion brutale dans un univers chaotique où, en pleine campagne, une nuit, une demeure isolée semble prendre vie. Les meubles se déplacent violemment, les objets se fracassent sur un couple là, qui parvient à s'enfuir de cette maison avec leur fille et ils se réfugient donc chez leurs voisins. Une fois le calme revenu, ils reviennent, tous les trois, ils reviennent dans la maison qui à nouveau se déchaîne comme si elle était possédée, décimant les parents de la gamine, Neve, seule rescapée du massacre sanglant.
J'espère qu'elle finira par se sentir bien dans cette maison. Une étagère est tombée hier. C'était ma faute, j'avais du mal à la monter, mais elle pense que les choses bougent. Ici, le vieux parquet craque, c'est normal. Elle a oublié ce que c'était de vivre à la campagne. Si elle ne s'habitue pas, j'ai peur qu'on déménage. Quitte à retourner en ville, ce serait dommage. Après seulement un mois passé dans cette maison, mais c'est comme ça. En attendant, on va refaire sa chambre. Et la laisser la décorer à son goût cette fois. Elle se sentira peut-être mieux ensuite. J'ai aussi coupé les branches qu'il y avait devant sa fenêtre. Elle projetait des ombres sur les murs.
On a fait pareil pour les nôtres. Ça leur filait une sacrée trouille, mais vous lui laissez une veilleuse pour la nuit ?
On vient juste d'en acheter une ce matin.
Ça ne vous manque pas de ne plus vivre en ville ? La clientèle est moins riche par ici.
Non, j'en avais marre de tout ça. La campagne, c'est vraiment mieux pour les enfants.
Ça suffit, Yves, laisse-le tranquille.
Combien de fois on te l'a dit, bon sang ?
Je suis désolée. Yves est toujours très jalouse de son petit frère. Elle ne lui veut pas de mal, mais les enfants ne se rendent pas toujours compte à quel point ils peuvent être violents.
Les voisins, un des proches de sa famille, recueille la petite fille et s'efforce de l'aider dans sa reconstruction, de l'inciter par tous les moyens à surmonter ce traumatisme. Mais des événements surnaturels se manifestent à nouveau. Neve continue à souffrir, alors pas besoin d'être un fin analyste pour deviner la place de la fille dans le film, présentée sans ambiguïté comme une lointaine cousine de Carrie, déplaçant néanmoins les enjeux et le contexte social, car il n'est pas question de bigoterie ni d'humiliation par son entourage. D'ailleurs, les enfants ont peur d'elle, mais ne cherchent pas à lui faire du mal. Quant aux parents, notamment sa famille d'accueil, sont des bourgeois libéraux, compréhensifs et humains, à moins que ce ne soit qu'un vernis extérieur. Marina Devane réussit un bouleversant portrait d'une fillette au visage poupin, mais au regard ultra-expressif, chargé d'angoisse et d'un mal-être qui contamine tout le métrage. L'interprétation sidérante de Missy Keating, dont il s'agit du seul rôle au cinéma, contraste avec la fadeur, sans doute volontaire, des acteurs adultes, bizarrement interchangeables entre eux, tels des doppelgangers figés. Alors, Marina Devane se focalise sur Neve, sacrifiant les autres personnages, ne donnant pas, hélas, c'est peut-être le plus gros défaut du film, une aura diabolique aux antagonistes du film, un vertige quant à leur véritable motivation et vice caché.
Qu'est-ce qui t'arrive ? Je vais demander à quelqu'un de nous amener deux plateaux repas et on pourra déjeuner dans mon bureau. Juste nous deux, d'accord ? Est-ce que ça va ?
C'est moi. C'est moi qui fait tout ça. Je peux faire bouger les objets quand je pleure et... C'est comme ça que j'ai tué mes parents. Oh. Et Peter et Emily et leur mère.
Niamh, qu'est-ce que tu racontes, mon ange ? Personne ne peut faire ça. Ce n'est pas ta faute si tout cela est arrivé. Allez, viens. On va manger.
Alors malgré cette faiblesse d'écriture qui affadit certaines séquences censées être terrifiantes, Dark Touch remplit quand même parfaitement son contrat, assume de bout en bout sa noirceur à travers une vision morbide de la cellule familiale, abordant en fait ainsi des thèmes délicats sans se voiler comme la maltraitance et la pédophilie. C'est aussi un mélodrame émouvant sur l'enfance meurtrie qui ne refuse jamais l'émotion, porte d'entrée qui peut intéresser les spectateurs n'appréciant pas les films d'épouvante, alors d'autant que la cinéaste ne lésine pas sur la violence graphique. Alors d'une photographie alors tout en clair-obscur, misant sur les éclairages nocturnes, accentuant ainsi l'atmosphère pesante, et d'une mise en scène sans temps mort, grâce à un montage très fluide, le film de Marina Devane retrouve l'élégance formelle et la virulence du propos de certains classiques de l'horreur anglaise. Voilà.
Dark Touch est donc disponible en VOD et en DVD Blu-ray.
Alors oui, là, il est disponible en Blu-ray.
Passons à une autre série estivale, celle consacrée au générique de film.
Cinérama.
Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?
Une petite histoire du générique.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes ?
Alors après avoir évoqué les rares personnes qui se sont amusées avec le générique de début de film avant les années 50, soit en France, Sacha Guitry, parlons maintenant de celui qui a révolutionné la manière d'ouvrir un film, le graphiste et réalisateur américain Saul Bass. Pour lui, le générique ne pouvait être un défilé soporifique de noms, il devait donner un aperçu du spectacle qui allait être proposé. L'entrée en matière du film devait donner les codes de compréhension de l'œuvre, en donner une dimension narrative et artistique. Et je vais même le citer, mon idée de départ était qu'un générique pouvait mettre dans l'ambiance et souligner la trame narrative du film pour évoquer l'histoire de manière métaphorique. Je voyais le générique comme une façon de conditionner le public de façon à ce que, eh bien, lorsque le film commence, il ait déjà un écho émotionnel chez le spectateur. J'étais convaincu que le film commence vraiment dès la première image. Une notion que de nombreux réalisateurs actuels ont complètement abandonnée, raison pour laquelle je me suis d'ailleurs lancé dans cette série sur le générique. La carrière de Saul Bass est riche et elle débute avec Otto Preminger. Il réalise une affiche pour Carmen Jones, et plutôt que de reprendre une image du film, eh bien Saul Bass en donne une expression graphique. Le réalisateur lui demande alors de créer le générique de son prochain film, L'homme au bras d'or. Saul Bass fait intervenir une musique jazz et rythme le générique avec de nombreux traits blancs verticaux ou horizontaux. Ce sont de simples papiers découpés sur fond noir, jusqu'à ce qu'apparaisse, eh bien, à ce qui ressemble à un bras. À chaque copie d'un film dont Saul Bass avait créé le générique, il était demandé au projectionniste d'ouvrir le rideau dès le début de la projection parce que à cette époque, eh bien, ce n'était pas toujours le cas. Il est bien difficile de résumer la carrière de Saul Bass en peu de temps. Alors passons un petit moment sur sa collaboration avec Hitchcock quand même. L'un des bijoux de générique est celui de Vertigo, sueur froide en français, qui dure 3 minutes. C'est ainsi que le graphiste américain parvient avec un sens du rythme à donner l'idée du vertige, de la chute et de la perte de contrôle induite par le film, de drôle de formes géométriques tourbillonnantes de couleurs différentes apparaissent alors à l'écran. Psychose, Saul Bass refait le coup des lignes qui vont et qui viennent et se croisent jusqu'à faire apparaître et disparaître petit à petit le titre du film ou le nom des acteurs principaux. Le graphiste tient à faire figurer l'un des enjeux principaux du film, à savoir la personnalité schizophrène de Norman Bates, interprété par Anthony Perkins, avec des moyens simples. En plus, le générique est accompagné par la devenue célèbre musique de Bernard Herrmann, de quoi instaurer une tension, l'atmosphère est posée. Restons avec Hitchcock pour North by Northwest, ou la mort aux trousses, bien plus facile à dire en français. Il faut 2 minutes pour que soient annoncés aux spectateurs les grands enjeux du film qui voit Gary Grant être pris pour un espion et aller à la recherche d'une vérité surprenante. La musique de Bernard Herrmann accompagne un générique qui débute sur fond vert avec un quadrillage noir. Chaque nom d'acteur est accompagné d'un rectangle blanc. Les quadrillages prennent forme car une image se superpose, celle d'un bâtiment vitré reflétant une activité urbaine. Le mouvement ensuite ne s'arrête jamais, parce qu'on est dans cette activité urbaine, et cette fois-ci c'est un plan avec des hommes et des femmes qui sortent d'un building, puis entrent dans une bouche de métro, descendent des escaliers ou traversent un carrefour. Comme les lignes, ces personnages ont des trajectoires. Alors des femmes se battent pour prendre un taxi, un homme, Alfred Hitchcock, veut monter dans un bus dont la porte se ferme. Le réalisateur reste à quai, ce bus et ses lignes. Il en sera bien question dans la scène la plus connue du film avec Gary Grant au milieu de nulle part, dans un paysage fait de routes qui se croisent et de terres labourées avec des sillons. Voilà, nous sommes restés beaucoup de temps sur Hitchcock parce qu'il y a eu une vraie collaboration avec Saul Bass. La semaine prochaine, on restera avec le graphiste américain et nous verrons les autres collaborations qu'il a pu avoir avec de grands réalisateurs. Dernière série de cette émission, ce sont les films d'anticipation qui ont vu 2024. Mais là, on va parler d'un film qui est sorti en 2020.
Cinérama.
Attention, Cinérama. Tout le monde Cinérama. À l'écoute. Attention.
Comment certains films ont vu 2024?
Disons que c'est de la prémonition.
Prémonition. Prémonition.
En 2024, une pandémie a ravagé la planète et le virus qui a muté tue à un rythme accéléré. Cela fait maintenant 4 ans que le monde vit en confinement. Alors les personnes infectées sont forcées de quitter leur maison et envoyées dans des camps de quarantaine. Grâce à son immunité au virus, Nico peut malgré tout continuer ses activités de coursier et passe ses journées à effectuer des livraisons à vélo à travers la ville. C'est ainsi qu'il va faire la connaissance de Sarah, une jeune femme cloîtrée dans son appartement. Malgré les protocoles de sécurité, Sarah et Nico tombent amoureux. Mais la jeune femme risque à tout moment d'être expulsée par le service d'hygiène de la ville. Alors sur le point de tout perdre, Sarah garde malgré tout un infime espoir. Se pourrait-il que cette petite flamme entre les deux jeunes gens puisse mettre un terme au cauchemar de l'humanité? Eh bien, sorti fin 2020, Songbird est, comme le dit le journaliste Antoine Desrues, indéniablement une curiosité dans son souhait de capter nos incertitudes et nos doutes quant à un instant charnière d'une histoire que nous étions en train de vivre. Car de manière intéressé ou non, il est évident qu'il se présente avant tout comme un objet socio-historique qu'on pourra prendre avec plus ou moins de recul dans les années à venir, donc ou peut-être aujourd'hui par exemple, selon l'évolution de la pandémie et l'après-Covid, si cela arrive jamais vraiment. Le problème, c'est qu'une telle intention est loin d'être suffisante. Et si le réalisateur Adam Mason prétend avoir écrit le scénario de Songbird en 3 jours pendant le confinement et que le tournage du film a duré 2 semaines et demie, le résultat s'en fait clairement ressentir.
Bonjour, Miss Garcia.
Bonjour, beau gosse. Tu me manques. Je voudrais t'embrasser.
Ça se fera. Un jour, j'espère.
Le couvre-feu est déclaré. Si vous n'avez pas d'autorisation, vous devez rester chez vous.
Adam Mason et son co-scénariste Simon Boyle, aidé par le producteur Michael Bay via sa maison de production Platinum Dunes, tentent ici de construire un film parfaitement dans l'air du temps avec des satires sanglantes comme la saga American Nightmare, tout en lorgnant sur tout ce qu'une décennie de cinéma a su pondre pour cristalliser les peurs des temps à venir. Il y a en premier lieu un film catastrophe, comme il y en avait énormément dans les années 70, mais isolement et confinement oblige, c'est un film catastrophe à échelle plutôt intimiste. On évite donc les grands mouvements de foule et surtout l'une des conventions reines de ce cinéma-là, à savoir un casting bourré à craquer de stars qui viennent toutes faire une apparition le temps d'une scène très souvent lacrymale ou spectaculaire. Ici, quasiment que des inconnus, et c'est pas plus mal pour que le quidam lambda enfermé chez lui lors du visionnage s'identifie d'autant plus à ce qu'il voit à l'écran et qui s'imaginerait vivre dans d'autres circonstances. Du film catastrophe, on glisse sans non plus en faire des tartines philosophiques vers une chronique d'anticipation, essayant d'imaginer un monde durablement impacté par les confinements qui deviendrait la règle. On est ici, hein, clairement, dans le cinéma dystopique des années 70, sur les verres en tête, sans jamais en atteindre un tant soit peu la profondeur ou le génie. Là où, bien évidemment, le film devient drôle, car on le sait bien, hein, plus le trait grossier et plus c'est vulgaire, plus c'est amusant, ben Songbird hérite du caractère de sale gosse de son producteur Michael Bay en développant des propos quelque peu complotistes, eux aussi rappelant la récente saga American Nightmare en mettant en scène un état policier et sanitaire n'hésitant pas à abuser de la force pour le soi-disant bien de la population. Alors on est franchement pas loin, hein, des antivax à la Francis Lalanne, hein, à la différence près, hein, que le chant de cet oiseau n'a bien évidemment aucune prétention intellectuelle et veut juste surfer par amusement, défi et bien sûr opportunité, avec un événement qui a quand même, il est important de le rappeler, mis sous cloche la quasi-totalité de l'humanité.
La tension monte à l'aube de la 213e semaine de confinement.
Une sinistre nouvelle vient d'éclater.
La Covid-23 a muté.
Début du scanner thermique. Scanner thermique normal.
Une terrifiante nouvelle vient de
tomber. Il apparaît que le virus s'attaque au tissu cérébral.
À genoux !
Je suis immunisé.
Le nombre de décès dans le monde s'élève à 110 millions.
Tous les Américains infectés sont placés en quarantaine dans des camps.
Sarah, qu'est-ce qui se passe?
Arrivé sur périmètre appartement.
Service sanitaire.
Sarah, réponds-moi.
Je crois que ma voisine est malade.
Ce sera plus facile si vous nous ouvrez la porte.
Il n'empêche, hein, qu'on rate bien évidemment le coche d'un film qui aurait pu être passionnant, tant dans sa conception à la Roger Corman, hein, rencontrant les plus hautes sphères d'Hollywood, que dans son fond sacrifié, hein, sous l'autel d'une action toute relative. Alors avec son décorum post-apocalyptique où les inégalités sociales sont exacerbées, alors les villas ultra sécurisées d'un côté et les zones de quarantaine ressemblant à des bidonvilles de l'autre, Songbird pouvait parler des conflits de classe, de l'addiction à la livraison à domicile et de la déshumanisation de la politique des Uber popularisée sous le règne de gouvernement macroniste. La présence de Demi Moore et de Bradley Whitford est censée donner corps à une sous-intrigue à base de bourgeois magouilleurs, de bracelets d'immunité, mais à l'image du reste, cet enjeu tombe vite dans le manichéisme facile, alors même que le long métrage voudrait s'attarder sur la question de la morale dans un tel contexte de survie. Alors pour autant, soyons honnêtes, Songbird n'est pas détestable, hein, et s'il ne restera pas dans les mémoires, hein, de 2020 à 2024, bah, se regarde sans déplaisir en raison de sa courte durée, soit l'inverse total du ressenti en période de confinement.
Alors moi, justement, bah, je l'avais vu pendant qu'il était sorti sur la plateforme pendant le confinement, mais je trouve qu'après le confinement, ce film doit perdre toute sa pertinence, en fait.
Vous rappelez de mauvais souvenirs, ouais. On veut au principe beaucoup oublier, en fait, hein. On semble oublier, mais c'est quand même un événement qui nous a frappé de manière assez monumentale, hein, bien sûr, il y a 4 ans désormais, et je trouve que ça soit, surtout dans le monde de l'art, on n'en parle plus du tout. Il y a juste Stephen King qui fait encore des clins d'œil à ça, ou qui fait des études de caractère pré-post-Covid dans ses romans, hein, mais sinon, c'est assez étonnant de plus en entendre du tout parler, donc c'est pour ça que d'un côté, que Songbird existe, ça reste un petit marqueur de son temps, quoi.
Puis vaut peut-être mieux voir ça que le film d'Assayas, non, Manu?
Ah oui, hors du temps, hein, qui pourrait d'ailleurs faire office de film post-apo, hein, finalement, c'est au départ. Hein, sauf qu'il ne se passe jamais rien, à mon avis, par la suite. Hein,
mais le vrai film apocalyptique, on est d'accord, c'est celui de Danny Boone sur le confinement.
Oui, apocalyptiquement nul. Mais c'est vrai que hors du temps, c'est un film qui était en phase avec cette situation. Il n'y a pas eu beaucoup de films qui ont traité ça en France, mais ça aurait été intéressant qu'il en fasse autre chose qu'un drame bourgeois, finalement.
Oui, voilà, oui. Parce qu'il se retire à la campagne dans sa petite maison
pour dire que tout va bien,
oui,
et qu'il a été heureux pendant ce confinement avec son frère, où apparemment ils font des listes, comme c'est un fan de cinéma, et son frère Mishka Asaya est un critique rock très reconnu, et donc leur petit plaisir à tous les deux, c'était de faire des listes des meilleurs films de telle année, les meilleurs albums sortis en 72, voilà.
Là, tout le monde se bat pas avec 4 enfants dans 25 mètres carrés en temps de confinement.
C'est ça. Allez, pour terminer cette émission, nous réécoutons un blind test d'il y a quelques années. On vous avait fait jouer sur les films traitant du virtuel.
Vous avez tous lu ou entendu parler des enregistrements
Cinérama.
Mais peu savent exactement ce que signifie cette formule.
Rediffusion.
Il s'agit de trouver des films où bien, il y a un monde virtuel et les personnages sont confrontés à ce monde virtuel. C'est le premier extrait.
Allez, je vous écoute.
C'est tout à fait inutile. Il n'y a pas d'issue. Cette ville est à nous. Nous l'avons faite.
Qu'est-ce que c'est que ces histoires ?
Nous avons façonné cette ville à partir de souvenirs volés. De différentes époques, de différents passés, réunis en un. Chaque nuit, nous modifions, nous affinons. Afin d'apprendre...
Apprendre quoi ?
Ce que vous êtes, Monsieur Murdoch, vous et vos chers concitoyens. Ce qui fait de vous des humains.
Manu, ça a été trouvé, c'était facile.
C'était Dark City. On a bien reconnu la voix de Kiefer Sutherland. La même que dans Pompéi.
Évidemment. Et un film sur lequel Matrix a pompé quelques images. Vous trouverez sur Internet eh bien, ce site qui compare un peu les deux films. Deuxième extrait.
Tu n'as jamais joué à aucun jeu.
Écoute, je meurs d'envie de jouer à des jeux. Mais j'ai une phobie, une peur phobique de la pénétration chirurgicale. Tu sais bien ce que je veux dire.
Non, je suis pas sûre de comprendre.
Me faire implanter un bioport.
Existence.
C'est au-dessus de mes forces. Je ne peux pas. Rien qu'à l'idée, j'en ai la chair de poule.
On te perce la colonne vertébrale au pistolet hydropneumatique. On t'implante une prise et c'est tout. Ça se fait n'importe où, c'est comme se faire percer l'oreille.
Ouais, c'est ça. Sauf qu'on a quand même une chance qui n'est pas négligeable de rester paralysé. Je me suis très bien renseigné.
Et oui, il s'est renseigné. Et on reconnaît très bien la voix de Jude Law.
Oui, très bien. Les dialogues sont amusants. Hein, c'est Existence de David Cronenberg.
Bah, il s'est amusé hein, avec ce film, Cronenberg. Troisième extrait.
Je tiens peut-être le moyen de rentrer chez moi. En bossant pour des personnes extrêmement puissantes, pour des personnes que je crois capables de faire disparaître les charges qui pèsent sur moi, définitivement. Mais il faudrait que tu m'aides.
Tu es ici pour corrompre un de mes éléments les plus brillants.
Tu sais ce que je donne en échange ? Laisse-les décider par eux-mêmes.
De l'argent.
Pas que de l'argent. Souviens-toi un peu. C'est la chance de bâtir des villes entières, des cathédrales qui n'ont jamais existé, des trucs qu'on ne trouverait jamais dans le monde réel.
Alors, tu veux que je laisse une autre personne partir avec toi dans tes fantasmes ?
Cette personne n'entrera pas dans le rêve. Elle ne fera que concevoir les niveaux et les expliquer aux rêveurs, c'est tout.
Alors ?
Inception de Christopher Nolan.
Tout à fait. Encore un nouvel extrait.
Ça, mes enfants, c'est le rêve américain. On donne aux États-Unis tout ce qu'ils ont toujours voulu. Toute la main-d'œuvre, mais sans les travailleurs. José est boucher dans un abattoir du Kentucky et Maria fait la nurse pour une famille de Washington. Vous trois, vous allez bosser sur un chantier de San Diego. Allez, vas-y.
Non.
Branche-toi. Ton avenir commence aujourd'hui.
Cette fois-ci, vous n'avez pas trouvé celui-ci. Là, il s'agit d'ouvriers mexicains qui restent au Mexique et qui finalement travaillent pour les États-Unis au moyen de robots, en fait. Là, ils sont vraiment en relation avec des robots qui sont aux États-Unis. C'est pour ça que c'est une forme d'immigration qui arrange les États-Unis. C'est ce qui est dit là-dedans.
C'est très bien.
Alors,
c'est pas e-robots ?
Non, c'est Sleep Dealers. Film plutôt alors un peu fauché, alors qu'il y avait des effets spéciaux, mais plutôt réussi. Voilà. Allez, dernier extrait.
Sark, je vous propose un petit défi, une nouvelle recrue, un dossier épineux, mais vous le conditionnerez selon le processus habituel. Formez-le pour les jeux, laissez-lui un brin d'espoir, puis néantisez-le.
À vos ordres. J'espérais bien que vous me trouveriez un adversaire qui donne du fil à retordre. De quel genre de programme est-il ?
Vous n'avez pas affaire à un programme, mais à un concepteur.
Concepteur ?
Exact. Dans le monde réel, il m'en a fait baver. Si on m'en fait baver, je me rebiffe aussi, l'ai-je mené ici. Qu'avez-vous, Sark ? Je vous trouve nerveux.
Eh bien, j'avoue qu'un concepteur, ce sont les concepteurs qui nous ont créés. Et les programmeurs qui vous ont écrit.
On ne m'a jamais écrit, moi, car je vaux des millions de leurs années hommes.
Et si jamais j'échouais ?
Préférez-vous courir le risque de m'affronter ?
Eh bien non, il ne le courra pas, ce risque. Alors... C'est un peu vieux, ça, non ? Ah, c'est un peu vieux, oui, c'est de 82. Tron ? Oui, Tron. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure ! Je ne l'ai pas entendu, c'était hors antenne. J'ai crié Tron. Enfin, Tron.
Elle a dit... Hé, Tron !
Je l'ai crié pour une fois, j'ai trouvé quelque chose. Donc, ben, on va dire qu'il n'y en a qu'un seul que vous n'avez pas trouvé, alors Marine. Voilà. D'accord ? On passe à la suite.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ça s'impose.
Mais pour quelle raison ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Je ne connais pas la réponse moi-même.
Comme vous êtes bizarre.
Oui !
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine, chacun avec notre série. Moi, je retournerai avec Saul Bass.
Et moi, je vous parlerai d'un film qui s'appelle Blind Son de Joyce Nashawati et qui est bien française.
Et moi, je vous amènerai dans l'Underworld, le quatrième pour être plus précis.
À la semaine prochaine.